À toutes et à tous, et on est vendredi, il est midi et demi, c'est l'heure de Dans la Lucarne, le rendez-vous presque traditionnel parce que en fait on n'est pas là tous les vendredis. Forcément, on coupe aussi quand il y a les trêves internationales parce qu'on n'a pas d'affiche. Je vais en profiter dans un instant pour rappeler le principe de l'émission. Et justement, avant de plonger dans cette émission, je rappelle que l'on est en direct tous les vendredis ou presque donc à midi et demi sur les trois plateformes de LOTV, Twitch, YouTube et Kick. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui suivent sur ces différentes plateformes et je vous invite à le faire si ce n'est pas fait. Et je vous encourage aussi, hein, si vous le pouvez, à souscrire à ces différentes plateformes, enfin ces différentes, toutes sauf YouTube, puisque YouTube on ne peut pas souscrire, on n'a pas le droit, puisque vous êtes en train d'écouter une IA qui vole du contenu à d'autres créateurs, la bise toujours à YouTube, hein, c'est toujours important de faire la bise à ceux qui nous aiment. Bref, donc si vous le pouvez, si vous voulez souscrire, vous pouvez prendre des subs, hein, sur les plateformes violettes et vertes, ça peut être gratuit même sur la plateforme violette sur Twitch. Mais si vous devez payer, puisque avec l'abonnement Prime, et si vous devez payer, bah, je vous encourage à le faire plutôt sur la plateforme verte qui ne va pas prendre une grande majorité de votre souscription. Bref, quoi qu'il en soit, je le disais, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vendredi qui amorce un gros week-end de football sur la planète Hello. Je le dis, c'est en direct si vous voulez, si vous écoutez cette émission en replay, que vous voulez venir y participer, poser vos questions dans le chat par exemple, et bien donc c'est sur ces plateformes-là le vendredi à midi. Alors quel est le concept pour ceux qui découvrent, quel est le concept de Dans la Lucarne? Il est très simple, pendant moins d'une heure, on va évoquer trois affiches qui ont été sélectionnés, que j'ai sélectionné, parmi la multitude de matchs qui se déroulent sur la planète lucarne opposée. Vous avez bien compris qu'on va donc naviguer entre les Amériques et l'Asie. Et pour le coup, cette semaine, on va vraiment naviguer entre les Amériques et l'Asie, parce que bah, vous allez voir, on a trois rendez-vous qui vont aller sur ces différentes régions du globe. Et d'ailleurs, ce week-end, d'habitude, on fait un match en particulier. Trois affiches, donc, hein, c'est comme cela que je le présente. Cette semaine, on ne va pas faire trois affiches, vous allez voir. Ça va être un petit peu plus large que ça. Et puis, bah, vous savez quoi, vu qu'on est prêt, on va commencer par le plus gros rendez-vous du week-end. Forcément, vous savez tout de suite lequel c'est. C'est celui de ce samedi. Voilà la première affiche. La première affiche va donc nous amener en Amérique du Sud. Impossible, impossible de ne pas revenir sur ce qui est le grand rendez-vous de l'année, la conclusion, le point final de la saison des compétitions continentales de clubs. C'est bien évidemment la finale de la Copa Libertadores 2024, que j'affiche le bon visuel, la finale de la Copa Libertadores 2024 entre l'Atlético Mineiro et Botafogo, ça sera ce samedi à 21h, à 1h, franchement, pour le coup, vous pouvez regarder tranquillement, pas l'excuse, vous n'aurez pas l'excuse des matchs qui sont trop tard. C'est une affiche, une fois de plus, 100% brésilienne, une fois de plus, je le dis une fois de plus parce que c'est la quatrième quand même en 5 ans, et alors que jusqu'ici dans toute l'histoire, il n'y en avait eu que deux des affiches 100% brésiliennes. Elles ont d'ailleurs été, toutes ces affiches ont été listées, hein, par la Conmebol si vous voulez jouer un quiz, un de ces quatre. Voici ces 5, ces 6 finales, c'est la 6e de l'histoire, je le disais, la 4e. La quatrième en 5 ans, c'est ça, la quatrième en 5 ans, vous le voyez, donc ça avait commencé en 2005 avec la victoire de Sao Paulo sur l'Atlético Paranaense, c'était poursuivi l'année d'après, en 2006 avec Internacional qui s'imposait face à Sao Paulo. À l'époque, on trouvait ces événements extrêmement rares. Bien voilà, je le disais, 2020, 2021, 2022, 2024, ce sont des affiches 100% Brésil. Deux fois Palmeiras, une fois Flamengo. Et là, donc ce samedi, on saura qui de l'Atlético Mineiro et de Botafogo sera titré. Il y a un petit intrus, hein, c'était l'année dernière entre Fluminense et Boca. Merci à Christophe Flieger pour le follow, bienvenue à toi. Et donc d'ailleurs c'est le point de vue intéressant lorsque l'on regarde un petit peu le palmarès, parce que vous le voyez, hein, on est en train de multiplier les affiches. Les affiches brésiliennes, les succès brésiliens. Le Brésil, depuis l'introduction, enfin depuis le nouveau nom pris par la Copa Libertadores, qui s'appelle officiellement depuis 2017 Copa Conmebol Libertadores. C'est important à savoir, pareil, hein, si un jour vous jouez à des quiz, ça peut tomber, ce genre de choses. Bref, depuis 2017, donc, le Brésil a gagné 6 finales. Il n'y a que River qui a empêché un 100% brésilien. D'ailleurs, la finale était 100% argentine. Et c'est bientôt son anniversaire. Et je le disais, au palmarès, c'est intéressant parce que tout simplement, alors là, ça va être peut-être compliqué à lire, hein, pour tous. Voilà, vous avez tout le palmarès de la Copa Libertadores. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'à ce palmarès-là, le Brésil se rapproche très fortement de l'Argentine, puisque l'Argentine a décroché 25 Copa Libertadores en tout. Le Brésil est à 23 et va donc décrocher sa 24e Copa Libertadores de l'histoire, et va donc revenir à une seule petite longueur de l'Argentine. Vous voyez aussi quels sont les types d'enjeux qui se cachent derrière tout cela. J'avais un petit défaut, un petit problème d'affichage sur une chose. Bref, vous voyez, ce qui se cache aussi un petit peu derrière soi, c'est cette domination sur le continent, puisque ces deux pays sont quand même loin devant. Alors, on ne va pas replonger dans l'histoire des deux clubs. Marcelin vous a offert une multitude d'articles sur le sujet, sur Lucarne Opposée. J'en reparle, je mettrai les liens dans la description. Il y a un dernier article qui arrive ce vendredi, qui va revenir sur la première finale du Brasileirão en 1971, qui a opposé l'Atlético Mineiro à Botafogo. Ça sera le dernier de toute cette série. Il y a donc l'histoire de chaque club. Il y a eu aussi des histoires de compétitions continentales remportées par le passé par chacun des deux clubs. La Copa Conmebol pour Botafogo en 93 et la Libertadores 2013, la folle Libertadores 2013 pour l'Atlético Mineiro. Mais forcément, si c'est non, alors forcément, je ne sais pas, si c'est non... Pour la plupart du grand public, ne parle pas forcément, hein, peut-être plus Botafogo quand même, ça doit parler un petit peu. C'est sûr que ça parle moins qu'un Flamengo, qu'un Fluminense, qu'un Corinthians, qu'un Palmeiras, qu'un Sao Paulo, probablement. Mais ce sont quand même deux géants. Il n'y en a qu'un seul, hein, je le disais à l'instant, qui a été titré dans cette compétition, dans cette Libertadores, c'est l'Atlético Mineiro. C'était en 2013, c'était dans des conditions, vous l'avez probablement lu sur le site, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire parce que... totalement fou, hein, ce titre de 2013, époque Ronaldinho avec des scénarios de match complètement dingues à partir des quarts de finale, que ça soit le match de Tijuana, le retournement face à Newell's, enfin Tijuana c'était vraiment improbable pour le coup, avec le pénalty raté à la dernière minute pour Tijuana, qui aurait pu, choisissez le verbe, éliminer l'Atlético Mineiro, et même la finale, hein, face à Olympia. Bref, je ne vais pas tout vous reciter. Salut à ma foi, et ça marche pour le replay, il sera dispo dans la foulée, hein, d'ailleurs, mais t'en as l'habitude, je le sais, tu regardes en replay. Merci à toi, merci d'être passé. Bref, je le disais, je vous invite à relire ces articles de Marcelin, et notamment celui sur 2013, et vous y croiserez notamment Sao Victor, le portier de l'Atlético Mineiro, qui est entré dans la légende et qui est souvent encore, vous verrez peut-être, peut-être dans les tribunes, des banderoles à son effigie, parce que ça a été notamment utilisé assez récemment sur un maillot, le fameux manteau d'Amassa, un maillot que l'Atlético Mineiro fait dessiner par ses fans. Ensuite, au terme d'une élection, vous avez un maillot qui est choisi et qui est élu et qui est mis en vente à édition limitée. Vous en voyez un juste derrière moi. Je peux agrandir un petit peu l'image. Vous le voyez juste derrière là. Ce maillot, c'est le fameux manteau d'Amassa. C'était celui où il y avait la carte de la région. Voilà, maillot absolument magnifique. Vous voyez pour le coup, je ne vais avantager personne puisque j'ai de la chance. J'ai les deux maillots. J'avais même les quatre maillots des demi-finales du dernier quart. Et donc, j'étais tranquille là-dessus. Bref. Côté Glorioso, donc l'un des surnoms de Botafogo, ça sera une première, et c'est aussi une autre première, hein, sachez-le, pour Botafogo. C'est la première fois que l'on a un finaliste qui atteint ce stade. C'est la première fois qu'on a une équipe qui arrive en finale pour la première fois de son histoire depuis San Lorenzo en 2014. Ça ne s'était plus produit depuis. On avait depuis que des finales entre habitués, entre guillemets. Donc c'est la première fois. fois depuis San Lorenzo. D'ailleurs, les trois derniers primo finalistes, si on doit les appeler ainsi, San Lorenzo donc en 2014, l'Atlético Mineiro en 2013 et Corinthians en 2012 avaient tous les trois gagné. Ça, c'est si vous voulez jouer un petit peu au niveau des stats. Alors, pareil, au niveau des statistiques, ce match, ou forcément au niveau des pronostics, ce match quand même oppose le leader du championnat, hein, qui a d'ailleurs fait un gros coup en milieu de semaine puisqu'il s'est imposé à l'Allianz Parque face à Palmeiras et donc prend 3 points d'avance à 2 journées de la fin et pourrait, semblerait, on ne sait jamais, hein, avec Botafogo, se diriger vers le titre. Alors que du coup, de l'autre côté, l'Atlético Mineiro, lui, est dixième du championnat, fait vraiment pour le coup all-in hein, sur cette finale de Libertadores. Sachez que ce club-là, l'Atlético Mineiro, le Gallo, hein, surnom du club, ça veut dire le coq, mais vous avez lu l'article de Marcelin, donc vous le savez. Le Gallo n'a gagné qu'un seul match, toute compétition confondue, depuis le 17 octobre. Ce match, c'était le 3-0 face à River en demi-finale. Allez, voilà. Dernier point pour les petites stats. Après, on va revenir un petit peu sur le match de manière générale. Cette année, ils se sont affrontés deux fois forcément en championnat, Botafogo et l'Atlético Mineiro. L'Atlético Mineiro n'a toujours pas marqué face à Botafogo. 0-0 à l'Arena MRV. Donc, à Belo Horizonte, sur le terrain de l'Atlético Mineiro, et 3-0 à Rio pour Botafogo. Donc voilà, on aurait presque envie de dire que sur le papier, avant le match, le favori qui se dégagerait serait naturellement Botafogo, les dynamiques, les résultats, etc., etc. Mais bon, on va quand même en profiter pour regarder les parcours. On va saluer Roberto de Zerbi qui vient d'arriver dans le chat. On va revenir un petit peu quand même sur les parcours de ces deux équipes. Vous voyez que le parcours a été finalement plutôt tranquille pour l'Atlético Mineiro. Une seule défaite, c'était en phase de groupe, c'était face à Peñarol que Botafogo a affronté, on en parlera dans un instant. Ensuite, un huitième de finale assez serré quand même face à un San Lorenzo qui avance pas des masses, un bon retournement de situation face à Fluminense, surtout sur le match retour parce que le match aller a été quand même assez compliqué avec un Atlético Mineiro qui a pas essayé grand chose, et une demi-finale pour le coup à la fois à l'aller et au retour parfaitement gérée face à River. Donc voilà, on va dire un parcours plutôt solide, plutôt en termes de résultats très positifs, parfois un petit peu plus compliqué en termes de prestations, mais un parcours assez positif. Est-ce que Johnny sera là ? Je pense que tu parles de John Textor. Écoute, s'il n'est pas là pour la finale, voilà, je pense qu'il sera là, vraiment. Pour le coup, les fans de Lyon, si vous voulez voir votre John Textor préféré, ouais, je pense qu'il sera là. Ça, c'est pour le parcours de l'Atlético Mineiro. On va regarder le parcours de Botafogo, où alors là, pour le coup, vous le voyez, il y a plus de matchs, parce que ça a été un vrai marathon pour le Fogão. Ça a commencé dès le deuxième tour préliminaire. Alors, il y a eu une victoire écrasante hein, face à Aurora. Ensuite, ils ont sorti le Red Bull Bragantino. Une phase de groupe un petit peu plus compliquée parce qu'ils avaient quand même perdu les deux premiers matchs de cette phase de groupe. Botafogo s'est qualifié en étant deuxième. Et c'est là où ça s'est mis à accélérer un petit peu. Vous le voyez toujours un petit peu plus tendu quand même hein, parce que forcément, l'affiche face à Palmeiras a été extrêmement compliquée. Ça s'est joué à un but hein, concrètement. Le choc face à Sao Paulo s'est joué au tir au but entre ces deux formations. Et puis, il y a eu la demi-finale face à Peñarol, qui a été plus ou moins pliée au match aller. Ne vous fiez pas forcément au score, parce qu'effectivement, il y a eu 5-0 à l'aller pour Botafogo. Mais il y a eu des moments au match retour où ça n'est passé à rien que ça bascule dans l'improbable. Botafogo est spécialiste hein, de ces derniers temps des chocs, hein, comme on dit. Donc attention, le match retour a été remporté par Peñarol 3-1, et il y a eu des vrais moments où ça aurait pu basculer dans quelque chose de totalement fou pour Peñarol. Mais bref, Botafogo est donc en finale, c'est sa première finale. Sachez qu'une seule équipe dans toute l'histoire de la Libertadores a gagné la Libertadores en étant issue de la phase de la phase préliminaire. Vous voyez que Botafogo a fait deux matchs. Cette équipe, c'était Estudiantes, mais Estudiantes avait fait un seul tour préliminaire pour arriver jusqu'à la finale, c'était en 2009. Je continue à vous donner plein de trucs comme ça. Si jamais il y avait un petit quiz qui tombait d'un de ces quatre, on saura ceux qui ont écouté cette émission. Il est décidé de faire de la détection des sols pour voir s'il y a de l'or à trouver pour financer la saison. Ouais, bah alors Monumental, il va pas pouvoir creuser grand-chose. Hein. Parce que Gachardo va pas le laisser faire, Roberto De Zerbi. Bref, je le disais, rendez-vous à 21h. 21h, oui, ce samedi, c'est en clair à la télé française, donc vous pourrez mettre la télé tranquillement française. Bonjour à Florian77 et merci pour le follow, je viens de le voir passer. Salut à Ibra, merci d'appuyer sur la blessure, je suis désolé Ibra, c'est dans ton stade, c'est au Monumental. Bref, c'est ce samedi, c'est à 21h. Et ça sera donc sur l'équipe, ça sera donc sur la télé, vous pourrez mettre sur votre télé et venir nous écouter parce que oui, ça y est, c'est bon, je peux le dire, on sera en direct, on suivra, on réactera tranquillement la finale, on pourra la vivre ensemble et vous n'hésiterez pas d'ailleurs si vous avez des questions à ce moment-là parce que j'imagine que sur une finale de Libertadores, surtout en clair à la télé, et ça c'est important quand même, c'est très bien ça, en clair à la télé française. Eh bien, il y aura forcément peut-être des questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Nous, on sera là pour y répondre. Ça fait quelques années que l'équipe la diffuse. Oui, mais il me semble que c'était sur leur plateforme numérique les années précédentes, Roberto De Zerbi. Non, je ne serai pas du tout aux commentaires de l'équipe. Non, pas du tout. Je pense qu'ils ne me connaissent pas. Donc voilà. Ils m'ont jamais. Non, je pense que voilà. Bref. Pardon, mais je crois rêver, Textor aurait un club qui fonctionne. Écoute, ça fonctionne très bien, Botafogo, cette année. Franchement, ça fonctionnait aussi l'année dernière. Ils ont vraiment craqué sur le final. Il y a eu quelques matchs où, bon, ça, notamment le match face à Palmeiras, qui est un petit peu le tournant. Voilà, il y a eu, il est vrai aussi, hein, quelques décisions arbitrales, parfois un petit peu contraires à Botafogo. Mais oui, oui, Botafogo, ça tourne. Il se peut qu'ils disputent, qu'ils diffusent quelques matchs de Libertadores la saison prochaine, pourquoi pas. Ouais, je ne crois pas une seconde. Donc, voilà. Je connais assez mal en comparaison aux équipes européennes. Botafogo, ce serait un genre niveau Tottenham. Tu veux dire en termes d'impact sur le championnat brésilien, sur le football brésilien de manière générale. Alors sur le continent, c'est petit, hein, entre guillemets, puisque Botafogo, c'est sa première finale, tout simplement. Sur le côté football brésilien, non, c'est un immense club. Je mettrai le lien dans la description, mais je t'invite à aller lire l'histoire d'un nom consacré au club écrit par Barcelin. Forcément, c'est Botafogo, c'est le club de Garrincha. Ça, voilà. On en parle, mais c'est aussi le club de Didi, de Nilton Santos. C'est le club qui a fourni le plus d'internationaux dans l'histoire à la sélection brésilienne. C'est un immense club, hein, Botafogo. Bon, je ne dis pas ça parce que j'en suis un petit peu supporter, mais c'est vrai. Hein, c'est un vrai, vrai grand club du football brésilien. Alors, est-ce qu'on le mettrait à la place de Tottenham? Il y a quand même des titres. Non, je suis vache. Je suis vache avec Tottenham, mais non, mais c'est difficile à dire. Oui, t'es pas Corinthians, t'es pas Palmeiras, t'es pas Sao Paulo, t'es pas Flamengo. T'es juste derrière, je pense. Je pense que t'es juste derrière. Faudrait voir de manière générale, mais tu vois, moi, je les placerai derrière ces monstres-là. J'ai oublié Santos en plus dans l'histoire, donc. Mais à Rio, c'est un des clubs qui compte. Ils ont des plateformes maintenant, l'équipe. Oui, ils ont des plateformes. Ils ont des plateformes, Ibra. Et je crois que la Libertadores, l'année dernière, elle était diffusée là-dessus, comme le sont les éliminatoires. Paris Match, leur sponsor, c'est les copains de Lucas Paqueta. Tu remarqueras, Roberto De Zerbi, si vous regardez tous l'affiche, vous remarquerez que chacune des deux équipes est sponsorisée par un site de Paris Sportif, par un bettor, hein, donc. Voilà. Tout ça pour dire que, souvenez-vous, l'émission qu'on avait fait sur l'influence, l'impact des sites et des betteurs dans le football sud-américain au Brésil, il est extrêmement violent. Bref, je le disais, c'est demain, c'est à 21h, c'est en clair à la télé, mais nous, on sera là. Donc n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez la moindre question, parce que forcément, l'équipe, ils ne pourront pas y répondre en direct. Et je ne sais pas s'ils pourront y répondre tout court, de manière générale, sans la jouer machin. Hein, mais c'est vrai que j'ai vu quelques diffusions de certains matchs et parfois, bon... On sent que ça découvre un petit peu. Double écran, télé plus stream, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sans façon... Ah, Ibra, c'est dans ton stade. Il faut que tu saches accueillir les gens. Bref, d'ailleurs, on parle de stade. Sachez que cette finale peut faire tomber un record, celui de la plus grosse affluence de l'ère moderne, hein, depuis les finales uniques, en fait, hein, concrètement, parce que si on remonte dans les années... dans les années 60-70, voilà. 69 232 spectateurs, c'était le record qui a été établi par le Maracana l'année dernière lors du Fluminense-Boca. Il peut être battu, donc, par le Monumental, qui est plus grand, hein, plus de 80 000 places. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, voilà, apparemment, hier, au moment où j'enregistre, hier, il y avait 60 000 places qui avaient été vendues. Donc, Voilà, on verra si c'est plein. Ouais, 84 567 places, merci pour Ibra. Vous voyez, il est chez lui, c'est lui qui accueille, hein, il est en train de préparer le stade. Bref, ce record peut être battu. Et petite, dernière petite anecdote, on va avoir un nouveau trophée. Un nouveau trophée parce que l'année dernière, Fluminense a décroché le titre et a rempli, vous le savez, hein, je vous montre le trophée, vous savez qu'il y a plusieurs rangées, hein, on fixe des plaques hein, sur la Libertadores, sur le socle de la Libertadores. On fixe des petites plaques de différentes couleurs, de différentes formes, d'ailleurs, même en plus. Eh bien, l'année dernière, Fluminense a rempli le dernier espace. Et donc, il a fallu juste rajouter une rangée. Pareil, si vous avez un jour, si vous croisez un jour un quiz. Bon, je dis ça, peut-être qu'il y aura un quiz demain, hein, c'est pour ça. Vous le voyez, jusqu'ici, il y a 8 rangées de plaques. Eh bien, on a été obligé d'en créer une nouvelle, une neuvième. Et donc, le vainqueur de demain posera la première plaque sur la dernière rangée. Voilà, tout simplement. Dernière petite précision par rapport à cette finale. Je sais que ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous qui nous écoutez. Le vainqueur sera le dernier qualifié pour la Coupe du Monde des clubs de l'ami Gianni Infantino. Et si on se posait la question de savoir si Textor allait être là au stade demain, on peut peut-être mettre aussi une petite pièce sur la présence du Gianni pour être sur les photos. Voilà. Tout simplement, on devrait avoir droit à Gianni Infantino demain au stade parce qu'il va envoyer aussi ce match, le dernier, à la Coupe du Monde des clubs et qu'il est important pour Gianni de faire la promotion de sa Coupe du Monde des clubs qui, pour l'instant, a vraiment du mal à convaincre même les acteurs de l'épreuve. Voilà, c'était pour le premier match. C'est la grosse affiche, hein, vraiment, clairement, de ce week-end. C'est le match à ne pas manquer. C'est aussi, hein, et je le rappelle assez fréquemment, et c'est aussi pour ça que c'est bien, et c'est pour ça qu'on ne critique pas le fait que ça soit à la télévision gratuit, parce que c'est aussi parfois le moyen pour vous d'entrer dans ce type de football, dans ces footballs. Alors, c'est pareil, je vais quand même mettre quelques garde-fous avant. C'est une finale. Voilà, les finales de Ligue des Champions ne sont pas forcément les plus beaux matchs de Ligue des Champions en Europe. C'est pareil en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est le même principe. Donc voilà, ne mettez pas des prismes européens, surtout. Je sais que c'est souvent fait, ça le sera forcément fait dans les grands médias. Ça l'a été, je me souviens du River Boca de Madrid qui avait donné des commentaires assez cataclysmiques de certains suiveurs de football européen qui ne comprenaient rien à ce qui se passait. Mais bon, c'est pas grave. Ouvrez, comme on dit chez nous, ouvrez vos chakras, regardez ce match-là. Ça peut être assez spectaculaire parce que Botafogo joue bien, parce que l'Atlético Mineiro de Gabi Milito joue absolument toute sa saison là-dessus. Et puis, vous allez croiser quelques joueurs voilà, que vous devrez voir en Europe, que vous avez pour certains vus en Europe. Je pense à Hulk, par exemple. Mais certains joueurs que vous allez forcément croiser bientôt en Europe, Thiago Almada, joueur de l'OL, je ne sais pas s'il sera joueur de l'OL, j'entends tout et son contraire. Normalement, ils sont interdits de recrutement, donc voilà. Je n'ai pas la sensation qu'il ait déjà signé son contrat avec Lyon. Donc, il y a Thiago Almada, il y a Luis Enrique, il y a Paulinho aussi à suivre du côté de l'Atlético Mineiro, le magnifique Fausto Vera, voilà, la dédicace au fils, c'est un de ses joueurs préférés. Bref, Adrielson est là et il ne devrait pas être, il n'est pas titulaire hein, dans cette équipe, il est entré en jeu parce que l'autre central s'est blessé face à Palmeiras, ce qui peut-être lui donner un spot pour jouer la finale, donc peut-être que Adrielson sera dans le 11 de départ. Jefferson Savarino aussi à suivre côté Botafogo, sur le papier, il y a deux vraies belles équipes, mais c'est une finale. On va voir aussi quel sera le plan de Gabi Milito. Est-ce qu'il va nous faire la même chose que face à Fluminense ou à l'aller face à River, ou est-ce qu'il va faire la même chose que à l'aller face à Fluminense et au retour face à River, c'est-à-dire dans un cas vraiment mettre en place un jeu ultra offensif et attaquer et presser, et dans l'autre cas bétonner comme un fou. Attention, parce que Botafogo, ça va très très vite en contre, notamment, on parlait dans le chat de Luis Enrique, on peut ajouter, donc je le disais, Savarino, on peut ajouter aussi Thiago Almada. Palmeiras s'est fait piéger de la sorte en milieu de semaine. Bref, samedi 21h en clair à la télé et avec nous sur LOTV, ça sera sur Twitch et sur Kick. Peut-être qu'on fera aussi la triple diffusion, comme ça vous choisirez la plateforme qui vous arrange le plus. Fin du premier match, on passe au second et ça sera presque dans la foulée de cette rencontre-là. Le second match va nous emmener forcément en MLS, puisque ce sont les finales de conférence, la saison 2024, que j'affiche le bon visuel. Voilà. Ce sont donc les deux affiches auxquelles ne participe pas l'élu. Hein, on parlait à l'instant de Gianni qui a invité. L'équipe hôte, hein, l'Inter Miami, vainqueur de la saison régulière, qui a sauté d'entrée. On va le montrer dans un instant avec le tableau des playoffs. Je peux même le montrer tout de suite avec le tableau des playoffs. Comme ça, on fera un petit peu le bilan de ces playoffs-là. Donc, demi-finale de conférence auquel ne participe pas l'Inter Miami, éliminé dès le premier tour. Les deux finales de conférence sont dans l'ordre, parce que c'est dans l'ordre des matchs. Orlando contre New York Red Bulls, c'est vraiment la sensation de la conférence Est, qui est pour le coup, je l'ai souvent dit dans les lives, qui est pour moi la conférence la plus relevée, hein, la plus dense en termes d'homogénéité de niveau. Et ben ça s'est vérifié tout simplement, hein, sur ces playoffs, parce que, bon, si Orlando était dans le top 4, eh bien, vous voyez que pour les Red Bulls, c'était 7e de la conférence, que l'Inter Miami s'est fait taper par le 9e de la conférence, l'Atlanta. Atlanta qui est allé donc ensuite se faire éliminer par l'autre équipe floridienne, le Orlando, qui arrive donc en finale de conférence. Il y a d'un côté des habitués, hein, des titres. Ça, c'est pour la conférence Ouest, avec la finale qui va opposer le Galaxy au Sounders. Je crois que je n'ai pas donné les horaires, donc c'est 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche pour Orlando New York Red Bulls. Et le Galaxy Sounders, qui est vraiment une finale de conférence entre habitués et entre équipes déjà multititrées en MLS, c'est dans la foulée, c'est à 4h, donc plus vers 4h05, 4h10 pour le coup d'envoi, hein, vous en avez l'habitude. Et le match de 1h30, ça sera plus vers 1h43, si je suis assez précis pour le coup d'envoi véritable du match. Bref, Orlando-New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders. Sachez que, quoi qu'il arrive sur ces matchs-là, la finale MLS qui est prévue la semaine prochaine, le 7 décembre, la finale MLS se jouera à l'ouest, puisque je rappelle que la priorité des terrains, ça se joue sur des matchs secs, la priorité des terrains est donnée en fonction du classement sur la saison régulière et donc sur la table combinée, hein, quand on va arriver à l'heure de la grande finale. Eh bien, Los Angeles et Seattle sont devant, forcément, forcément, puisqu'ils étaient en haut de leur conférence. Ils sont devant New York et devant Orlando. Donc, quoi qu'il arrive, la finale MLS aura lieu sur la côte ouest. On reste à savoir où. Deux belles affiches, donc Orlando d'un côté, New York Red Bulls de l'autre pour la conférence Est, Emile Forsberg face à Facu Torres et sa bande. Et de l'autre côté, je le disais à l'instant, un duel entre grands habitués, les Sounders de Brian Schmetzer, immortel, hein, entraîneur de Seattle, qui a d'ailleurs prolongé Seattle, qui a réussi, hein, à sortir le LAFC au prix d'un miracle, au prix d'un vrai hold-up, hein, avec un but en prolongation. Ça s'est joué à vraiment, ils ont été dominés absolument tout le match, mais Stéphane Frey est toujours un gardien absolument incroyable. Il y avait un petit côté Brad Guzan, hein, face à Miami dans ce match-là pour Seattle et pour Frey. Face à eux, ce qui est probablement, on va pas se mentir, probablement la meilleure équipe, hein, en termes de jeu. Si vous ne les avez jamais vus jouer, c'est vraiment l'occasion. Le LA Galaxy de Ricky Pucci, de Gabriel Peck, notamment de Joseph Pencil, etc. De Marco Royce, qui a pris sa place sur la demi-finale de conférence face à Minnesota et qui a fait d'ailleurs un très bon match. C'est l'équipe qui joue le mieux au football, l'équipe du Galaxy. Et il suffit aussi, si vous n'avez pas vu les matchs, de regarder les résumés quand même, vous verrez. L'ouragan offensif qu'est cette équipe, Colorado a pris 5-0, 4-1, Minnesota a pris 6-2. Hein, donc voilà, c'est vraiment une équipe qui fracasse absolument tous ceux qui se présentent face à elle. Sur le papier, pareil, ça s'annonce peut-être un petit peu déséquilibré du côté du LA Galaxy Sounders en faveur de LA. Attention quand même, parce que les Sounders, c'est des habitués, je le disais, c'est une équipe que personne ne veut jouer en playoff parce qu'elle est insupportable à jouer. Non, mais ils ont aussi beaucoup d'expérience et beaucoup l'habitude de jouer ça. Ça va être deux matchs spectaculaires. C'est beaucoup plus ouvert, hein, entre Orlando et les Red Bulls. Les Red Bulls qui ont quand même réussi l'exploit de sortir c'est aussi ça hein, qu'on regarde, hein, le tableau de chasse, sortir le Columbus Crew d'entrée en deux matchs secs, et ensuite sortir New York City qui venait de les battre il n'y a même pas un mois à 5-1, les deux fois en maîtrisant les matchs, donc c'est beaucoup plus ouvert dans cette rencontre-là. Là aussi, sur cette finale MLS, on aura un primo accédant, et il viendra de l'Est. Je le disais, rendez-vous donc dans la nuit de samedi à dimanche, à partir d'1h30, probablement qu'on enchaînera un live. On coupera peut-être après le live de la Libertadores, histoire de souffler un peu. Et ensuite, on reprendra l'antenne vers 1h30 pour Orlando, New York Red Bulls. Parce que la finale Libertadores devrait nous amener, sauf si ça dure vraiment beaucoup plus longtemps, mais vers 23h30. Donc après, il y a une coupure de 2h. Donc je pense qu'on reviendra, mais ça veut dire qu'on fera de live hein, ce week-end. Et on fera le premier match entre Orlando et New York. Le match de 4h, ça va être plus compliqué, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ce sont les playoffs MLS. Si vous voulez les suivre, je disais tout à l'heure, hein, parce que c'est un peu le principe de l'émission, on vous présente des matchs, on vous plante un petit peu le décor, et on vous explique comment les suivre. Pour suivre les playoffs MLS, c'est simple, c'est à un seul endroit, c'est une plateforme légale, c'est payant, c'est le MLS Season Pass, et je vous ai mis une capture d'écran pour ce final-là, parce que vous le voyez, ces matchs-là, donc ces deux matchs plus la finale, on est toujours sur la plateforme avec un abonnement à 9$, enfin à 10$, hein, 9,99 à 10$, donc ça vaut vraiment le coup, c'est pas grand-chose, entre guillemets, ça peut compter, mais comme je le dis parfois et souvent dans les lives MLS quand on me pose la question, je vous conseillerais, si vous avez 10$ à mettre, je vous conseillerais plus de les mettre là que de les déposer sur une plateforme de paris sportifs. Bon, après, chacun est libre parce que je crois que les matchs sont disponibles sur certaines plateformes de paris sportifs. Mais le MLS Season Pass, voilà, c'est 10 balles. Si vous avez déjà Apple TV+, c'est gratuit. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas besoin de l'avoir pour souscrire le MLS Season Pass et vous pourrez voir les matchs et vous pourrez accéder à plein d'autres choses avec le MLS Season Pass. Il y a des documentaires et des trucs vraiment pour le coup. Ça fait un peu le mec payé par Apple, mais pas du tout. La plateforme est vraiment, vraiment, vraiment très, très solide. Donc voilà, c'est 10€, c'est 10$. Voilà. Il ne reste plus que 3 matchs, c'était 10$ dès les tours précédents, hein, donc dès les débuts des playoffs, il fallait en profiter avant. Mais donc, il existe un moyen légal, facile, multiplateforme, hein, vous pouvez le regarder sur ordi, sur télé, sur tablette, sur tout ce que vous voulez, pour regarder les matchs de MLS. Et vous verrez que, comme on dit les Argentins, le producto est plutôt de très bonne qualité. Voilà, ça c'est le deuxième rendez-vous du week-end qui nous emmène donc en MLS. On était en Amérique du Sud. On est remonté vers le nord. On va changer de continent pour le troisième rendez-vous. Et on va même déborder de notre week-end parce que oui, le troisième rendez-vous, on va aller en Asie. Alors là, je vais aller sur une compétition qui va absolument faire plaisir à la plupart des rédacteurs asiatiques de Lugarno Posé qui, pour bon nombre d'entre eux, la détestent cordialement. Mais on peut expliquer, je donnerai quelques éléments pour expliquer cela dans un instant. Cette compétition, c'est l'Asian Champions League Elite, parce qu'il y a plusieurs compétitions en Asie. C'est l'équivalent de la Ligue des Champions Asiatiques. Et justement, je me suis dit que comme on n'en écrivait pas hein, sur Hello à ce sujet-là, je vous dis, les rédacteurs, ils la boudent. Ils sont en boycott total. On va quand même en parler un petit peu parce que c'est la compétition majeure des clubs asiatiques. Et puis, elle en dit long aussi sur certains éléments et sur la façon dont certaines compétitions sont en train de tourner, de se refermer. Choisissez le mot que vous voulez. Elle s'appelle donc, je le disais, AFC Champions League Elite parce que et c'est depuis cette saison hein, elle s'appelait Asian Champions League autrefois. Il y a deux autres compétitions qui ont été créées, l'Asian Champions League 2, le chiffre 2, voilà, c'est ce qui en dit long. L'Asian Champions League 2 et la troisième c'est l'AFC Challenge League. Alors justement, c'est assez intéressant parce qu'on peut peut-être parler de cette organisation là parce que c'est quand même très particulier la façon dont on y participe. Comment faire simple? En fait, on est élu sur des critères sportifs. Mais pas que. Il y a des histoires de licences qui sont accordées par la Confédération. Les nations sont classées en Asie, justement, sur des critères sportifs et des critères de licence. Des critères de licence qui autrefois étaient se basaient sur des éléments sportifs. Donc, comme par exemple le fait d'avoir des équipes de jeunes, des histoires de niveau. Hein, je mets mettez des guillemets à tout cela. Hein, c'est-à-dire par rapport au niveau des infrastructures. possession ou location du stade, les normes de sécurité, possession ou pas d'un centre d'entraînement, et après des critères administratifs. Donc il y avait tout un ensemble de critères qui excluaient certains pays, hein. On peut parler du Liban et de la Corée du Nord par exemple, qui n'avaient pas le droit de jouer la Champions League. Et c'est encore pire maintenant, puisqu'ils ont créé donc, autrefois il y avait deux compétitions de clubs en Asie. Il y avait l'Asian Champions League, l'AFC Champions League, donc la Ligue des Champions, et il y avait l'AFC Cup, l'ACL, c'est pour AFC Champions League, mettait aux prises 45 clubs, impliquait 24 à 25 associations, je le disais, c'était souvent en fonction de ces critères-là, il fallait faire attention. Il y avait des paramètres différents là-dessus, et l'AFC Cup était ce que l'on considérait comme le deuxième échelon continental, hein, c'était l'équivalent entre guillemets de l'Europa League, qui était réservé aux 44 équipes représentant des associations qui ne font pas partie du top 5 de chaque région. Voilà, bref, donc ça excluait les 10 meilleurs qui ne pouvaient pas y participer. En gros, imaginez qu'en Europe, vous excluez les meilleures fédérations de l'Europa League. Vous enlevez, imaginons qu'en France on parle beaucoup de top 5, bah enlevez le Big Five et ça donnerait l'Europa League version asiatique autrefois. Alors maintenant ça a changé, je le disais, on a donc cette ACL Elite qui est réservée aux meilleures associations de chaque région. On a 24 équipes qui sont qualifiées, qui sont issues des 6 meilleures fédérations du continent. Par rapport à ces classements, vous avez l'ACL 2 qui est réservé à ce que l'on appelle le deuxième tiers. Il y a 32 équipes qui sont réparties en 8 groupes de 4, etc. etc. Et vous avez l'AFC Challenge League qui, elle, est réservée aux associations du dernier tiers des fédérations. Donc vous voyez que l'on classe véritablement les associations selon différents critères et qui fait intervenir une vingtaine d'équipes. Autre particularité du format asiatique, et c'est là où c'est aussi un petit côté, on était sur la MLS et finalement la transition elle est facile à trouver, on en avait déjà parlé, on avait parlé hein, de l'Asian Champions League et de ses critères, de la façon dont c'était assez aberrant. Elle a un autre souci, la Confédération Asiatique, c'est un souci géographique, elle est tellement immense que vous ne pouvez pas imaginer organiser en milieu de semaine un match entre Central Coast Mariners, par exemple, qui est en Australie, et une équipe du golf, par exemple Al Nassr, l'équipe de Ronaldo. Parce que je vous laisse calculer le nombre d'heures de voyage qu'il va falloir faire, tout cela en milieu de semaine, entre deux matchs de championnat. Alors, pour simplifier la tâche, elle a fait comme la MLS. Concrètement, l'Asie a créé deux conférences. Elle ne les appelle pas comme ça, mais bon, voilà. Il y a une partie Est, une partie Ouest. C'est la même chose qu'en MLS. Et donc, l'Est et l'Ouest ne se croisent absolument jamais, enfin, presque jamais. Ça a un petit peu changé cette année. Jusqu'ici, ils ne se croisaient qu'en finale. Cette année, le format a un petit peu changé. Parce que vous allez voir qu'on a aussi mis un petit peu de sauce à l'européenne. Ce que je veux dire par mettre une sauce européenne, autrefois, la Ligue des Champions asiatiques, c'était des groupes de 4, comme on connaissait chez nous en Europe, les deux premiers passes pour les huitièmes de finale, etc., etc. Là, on a changé. On est passé sur ces fameux sortes de championnats, ces phases de ligue, comme on les appelle en Europe. On les appelle aussi phases de ligue en Asie. Les 24 équipes, 12 par conférence, hein, on va les appeler conférences, ne s'affrontent pas toutes. Il y a 8 matchs. Il y a des tirages au sort qui font qu'on a créé la liste des matchs. Et à l'issue de ces 8 matchs, les 8 meilleurs sur 12 se qualifient pour les 8e de finale. Les 8e de finale se jouent en match aller-retour. Et ensuite, on se qualifie donc pour les quarts de finale. Gardez en tête qu'on reste chacun de son côté en 8e de finale. L'Est se joue entre lui, l'Ouest se joue entre lui. Et là, c'est la petite particularité de l'Asie. À partir des quarts de finale, ça va se jouer chez un pays hôte. Bon, on le connaît, hein, ça sera l'Arabie Saoudite. Et ça sera sur des matchs secs. Et là, tout le monde se mélange. C'est-à-dire que l'Est va pouvoir enfin croiser l'Ouest à partir des quarts de finale sur des matchs secs. Et comme par hasard, c'est encore organisé à l'Ouest. Généralement, c'est toujours à l'Ouest que ça se passe. Parce que, et on en avait déjà évoqué dans un podcast avec Baptiste, je mettrai le lien, et on en a souvent parlé, notamment quand on parlait d'Asie dans les 9-10 ou même dans certains lives, c'est l'Ouest qui dirige la zone, concrètement, financièrement, En termes d'engagement, en termes de tout ce que vous voulez, c'est l'Ouest hein, qui dirige la zone, donc qui dicte sa loi. Autre spécificité d'ailleurs, et pour vous montrer à quel point l'Ouest dicte sa loi, sachez que le calendrier, vous voyez la saison, là, on est en cours de Ligue des Champions. La plupart des pays d'Asie de l'Est terminent leur saison. Le Japon, pour ne citer que les deux plus grands en termes de palmarès à l'Asian Champions League, le Japon et la Corée du Sud, par exemple, eux sont en train de terminer leur saison. Ils vont donc terminer la phase de ligue avec des nouveaux effectifs sur une nouvelle saison pour eux et joueront les huitièmes ou les quarts avec donc ce nouvel effectif. Normalement, ils vont modifier. Je crois que le Japon a plus ou moins envie de passer sur ce que l'on appelle hein, le calendrier européen, c'est-à-dire août-mai ou septembre-juin, vous choisissez. Mais pour l'instant, tel que le format est fait, vous avez une phase de ligue qui arrive en fin de saison pour l'Est, pour pas mal de pays de l'Est, à l'exception de l'Australie, mais l'Australie ne joue pas grand-chose. Pas mal de pays de l'Est, les deux principaux, le Japon et la Corée du Sud, et qui vont donc finir leur phase de ligue avec un effectif totalement renouvelé. Il y a eu d'autres éléments qui ont permis de favoriser un petit peu l'Ouest. Je fais un petit peu le défenseur de l'Est hein, qui grogne, parce qu'on a aussi augmenté le nombre d'étrangers que l'on avait le droit d'aligner dans les formations. Il y avait un quota autrefois en Asian Champions League. On l'a relevé un petit peu pour que les gérants saoudiens et qataris puissent aligner leurs armadas. On va faire quand même un petit point sur cette phase de ligue. On va regarder ce qui se passe du côté de l'Ouest. Sachez que il y a déjà les trois Saoudiens qui sont en train de mener le classement. Al Hilal et Al Nasser sont déjà qualifiés hein, pour les huitièmes de finale. Petite anecdote, ça c'est pour tous les théoriciens du complot qui vont traîner dans le coin. Ils n'étaient pas dans le même chapeau en termes de les équipes. Pour le tirage au sort et pour déterminer les matchs au hasard, les équipes ont été placées dans différents chapeaux, dans des chapeaux, et ensuite ont été répartis dans des tableaux à trois colonnes. Trois ou quatre colonnes ? Trois colonnes, je crois. Peut-être quatre, je ne sais plus. Bref, à plusieurs colonnes. Eh bien, hasard, magie, choisissez le mot, du tirage au sort, les trois clubs saoudiens se sont retrouvés dans la même colonne, c'est-à-dire donc ne peuvent pas s'affronter et ne s'affronteront pas. Voilà, c'est comme ça. Bref. Ils sont dans la même colonne, ils ne se sont pas affrontés, ils se promènent un petit peu, ils sont déjà en huitième. On aura quand même, et je vais vous montrer le programme, vous voyez le classement. Ouais, à l'Ouest, c'est un peu la guerre froide, c'est vrai. Forcément, il y a toujours un climat politique assez pesant sur la zone. Regardez d'ailleurs, petite anecdote, hein, rien à voir avec la politique et tout. Le classement, le dernier du classement, c'est juste le tenant du titre. Voilà, bref, le programme. Parce que je vous ai dit, ça va déborder un petit peu. Ça commence lundi à 15h, les matchs. Est-ce que j'ai mis le bon ? Oui, j'ai dû mettre le bon. Il y a une jolie affiche quand même ce lundi, même si Al Nasser est déjà qualifié. Troisième de Saudi Pro League, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ils vont affronter Al-Sadd. Al-Sadd, ça vous parlera peut-être un petit peu. C'est l'ancien club de Xavi, mais c'est surtout aujourd'hui le club de Félix Sanchez, l'ancien sélectionneur du Qatar. Al-Sadd est qatari et va dans cette équipe. Une grande majorité des joueurs qataris qui avaient fait la finale d'Asian Cup en 2019, qui avaient gagné l'Asian Cup en 2019, certains ont encore gagné la dernière Asian Cup, étaient à la Coupe du Monde. Bref, Félix Sanchez a retrouvé une grande partie de ses internationaux. Al-Sadd est deuxième de Qatar Stars League et vous allez y croiser quelques joueurs que l'on connaît. Je pense à, j'ai mangé son prénom, Atal, l'ancien niçois, Adam Ounas ou Romain Saïs, par exemple, que l'on a croisé chez nous, qui sont dans cette équipe-là. Donc ça, c'est le programme, hein, vous le voyez de manière générale, on ne va pas forcément le commenter en détail. C'est la sixième journée sur huit, donc, si vous avez bien compris. Et du côté de l'Est, par contre, c'est un petit peu plus serré. C'est un petit peu plus serré, puisqu'il n'y a que 6 points qui séparent le leader, le Vissel Kobe, du premier non qualifié, qui est un Thaïlandais, Buriram United. D'ailleurs, les Thaïlandais, eux, se rendront sur le terrain de Johor, qui sont des Malaisiens, qui sont actuellement 5e. Et vous voyez que le 5e a exactement le même nombre de points. Que le second de ce classement, c'est Guangzhou, club coréen qui va se déplacer en Chine pour affronter Shanghai Sport, qui est Shanghai Port, par exemple, pardon, ancien SIPG, c'est l'équipe d'Oscar, qui est huitième. Sachez que le Vissel Kobe, lui, va se rendre à Pohang. Vous allez pouvoir noter aussi que du côté des Coréens, on s'en moque un petit peu. Ça continue de poursuivre dans ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont elle est vécue à l'Est. C'est pas trop le cas au Japon. Certains arrivent à jouer le coup. On se souvient d'Urawa qui l'a joué vraiment. Vissel a l'air de vraiment la jouer. Mais c'est des équipes qui ont une volonté aussi d'avoir une reconnaissance entre guillemets internationale ou continentale au minimum. C'est pas forcément le cas pour les autres. Et du côté des Sud-Coréens, on s'en fout total. Bon, Gwangju, c'est très beau ce qu'ils font, mais on pensait par exemple à Pohang et surtout à Ulsan. Hein. Vous voyez qu'Ulsan est dernier. Ulsan n'a marqué qu'un but en 5 matchs, s'en moque absolument totalement et devrait s'en moquer encore plus parce que ce week-end en Corée du Sud, c'est la finale de FA Cup entre Pohang et Ulsan, entre les Steelers et les Tigres d'Ulsan, le champion de Corée du Sud 2024. C'est la conclusion hein, de la saison pour les clubs de première division, enfin pour les... Ouais, c'est quasiment la conclusion parce qu'il y a les barrages pour les autres de promotion-relégation. Je n'ai pas réussi à savoir si cette finale sera facile à regarder, disponible sur le YouTube de la KIFA. Autrefois, ça l'était, j'ai pas l'impression. J'ai demandé à Baptiste qui n'a pas trouvé la réponse véritable non plus. Les demi-finales n'y étaient pas, donc il y a possibilité que ça y soit pas. Je mettrai le lien quand même vers la chaîne YouTube de la Fédération coréenne. Allez y faire un tour, c'est demain à 7h du matin, si vous êtes levé de bonne heure. Mais donc, Pohang et Ulsan, vous avez compris, ils devraient s'en moquer totalement de ce qui va se passer en milieu de semaine. Juste pour vous préciser en termes de rendez-vous, je le disais, ça démarre pour la CL, je vous montre là hein, les autres matchs de la conférence Est, j'appelle la conférence Est. Ça démarre donc ce lundi à partir de 15h, vous avez vu le programme. Je vous rappelle juste que Al Nasser Al Sadd, c'est lundi à 19h. Donc c'est franchement, pour le coup, c'est à des heures vraiment faciles et très accessibles. Et par exemple, le fameux match entre Pohang et le Vissel Kobe, c'est mardi à 11h. Alors vous allez me dire, comment est-ce que l'on peut suivre ça? Il existe un moyen légal. C'est payant, mais c'est légal. Il y a forcément toujours les moyens illégaux, mais je ne vais pas vous les donner ici. Mais là, il y a un moyen légal. Ça s'appelle Thriller TV. Ça coûte 8$. Par mois, 70$ à l'année. Vous voyez que ça aussi diffuse d'autres compétitions de clubs, le Portugal et les Eredivisie néerlandaises. Vous avez les deux grandes compétitions asiatiques, hein, la CL Champions League Elite et la CL Champions League 2. Vous avez la FC Cup aussi. Non, la FC Cup, c'était l'année dernière. Bref, voilà. Vous avez les compétitions continentales, les replays et tout. Ça coûte 8$ par mois. Alors, c'est une plateforme où il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports de combat. Hein, donc, si vous êtes amateur de sports de combat, voilà. Mais donc, il y a un moyen légal. C'est un peu comme le MLS Season Pass. C'est sur multiplateforme. Vous pouvez le mettre sur votre télé connectée, partout. Et vous voyez qu'en termes de prix, on est sur de 70$ à l'année pour accéder à ces matchs-là, si vous voulez suivre ces matchs-là. Voilà. Voilà pour la dernière affiche, le dernier rendez-vous. Vous avez vu, on est parti d'Amérique du Sud, on est remonté en Amérique du Nord et on termine en Asie. Il va y avoir le récapitulatif des trois rendez-vous. On va arriver donc forcément au terme de cette émission-là. Je vous mettrai tous les liens, hein, même vers les différentes plateformes, hein, si jamais ça vous intéresse pour souscrire et tout. N'ayez pas peur, ce ne seront pas des liens affiliés. On n'est affilié à rien du tout. Donc, pas de souci là-dessus. Je vous enverrai donc sur ces différentes plateformes. Je vous enverrai aussi vers les différents articles de la semaine sur la Libertadores. Il y en a un dernier qui arrive ce vendredi après-midi. Je le disais, qui va revenir sur Atlético Mineiro Botafogo 1971. Comme ça, vous serez vraiment prêt pour cette finale de Libertadores. Notre prochain rendez-vous sur LOTV, ça sera demain. On sera là un petit peu avant 21h. Je vais voir si j'ai le temps de m'amuser à organiser un petit quiz pour s'amuser probablement à la mi-temps. On va voir ce qu'on peut faire. Ou sinon, on le fera plus tard avant le match MLS. On verra. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Sinon, gardez bien en tête, lisez bien tout ce qui a été posé sur écrit sur Hello. Et on s'amusera ensemble. Je vous donne donc rendez-vous demain à partir un peu avant 21h pour suivre cette finale de Libertadores. Ensuite, à 1h30. Pour suivre le premier des deux matchs, la première finale de conférence de MLS. Je vous donne rendez-vous ensuite lundi prochain pour Lucarne américaine. Si tout va bien, normalement ça devrait aller. Vendredi prochain, sinon pour l'épisode 6 de Dans la Lucarne. Je vais essayer, ça risque d'être compliqué parce que je vais devoir me déplacer du côté de Concarneau vendredi prochain, mais on va voir si je peux le placer. Bref, sinon, eh bien voilà, je le disais demain. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à tous ceux qui vont écouter cette émission en replay. Elle est tout de suite disponible sur YouTube. Il y a même une playlist dans la lucarne où vous pouvez voir toutes les émissions. Va arriver sur les plateformes de podcast dans l'après-midi, dans la foulée. Et donc, je vous dis bon match, bon week-end de football. Je vous donne rendez-vous demain à 21h et je vous laisse donc avec le générique de fin qui va récapituler les horaires et les trois affiches de cette semaine de l'épisode 5 de Dans la Lucarne. Salut tout le monde!